Et l'invité dans ce journal, c'est le vice-président, Samia.
Oui, Nui Habloré, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce midi, on va discuter avec vous du budget primitif 2015. Vous avez présenté les grandes orientations lors du débat d'orientation budgétaire, c'était le 30 octobre dernier. Et ce matin, vous étiez à l'Assemblée pour une séance plénière où il a été aussi question de ce budget. Vous avez parlé de mesures impopulaires. Elles devront être bientôt prises pour, je cite, la survie de la protection sociale généralisée. Nui Habloré, quelles sont ces mesures impopulaires?
Alors j'ai effectivement parlé de la situation de la PSG ce matin, des mesures que nous devrons prendre rapidement concernant l'assurance maladie et la retraite, mais sur la question du budget en lui-même, effectivement nous avons déposé les documents dans les temps comme prévu, et nous allons examiner ce budget dans les jours qui viennent. Alors, c'est un acte important pour le pays, puisque c'est ce qui détermine la capacité du gouvernement à agir dans les secteurs qu'il souhaite soutenir pour l'exercice à venir. Je l'ai indiqué lorsque le sujet est venu lors du débat d'orientation budgétaire. Nous souhaitons nous inscrire dans la continuité des actions qui ont déjà été menées depuis 2013, à savoir la poursuite des actions de redressement financier de notre pays et surtout le soutien à l'économie au travers de mesures qui visent justement à favoriser l'activité économique et la création d'emplois. Nous sommes effectivement dans la poursuite de ces actions qui ont été engagées depuis le mois de mai 2013.
Pourquoi vous les avez qualifiées ce matin de mesures impopulaires? Vous avez peur que ça ne passe pas dans l'opinion?
Les mesures qui permettront de rendre viable notre protection sociale généralisée sont toujours impopulaires. J'ai cité la mesure qui avait été prise en 2010 à l'époque par le président Gaston Tong-Song, le vice-président Édouard Fritch et Théoura Hirité, qui était ministre de la Solidarité, qui ont augmenté le ticket modérateur, qui l'ont fait passer de 20 à 30%, c'est-à-dire la part qui doit être payée par les patients pour leur consommation de soins. C'était une mesure nécessaire, sinon l'assurance maladie était complètement en difficulté depuis plusieurs années déjà. Donc ce sont des mesures effectivement impopulaires, mais que nous devons prendre si nous souhaitons voir notre protection sociale continuer à fonctionner correctement pour les années à venir.
Vous l'avez dit juste avant, vous prévoyez un budget qui s'articule en deux axes, soutien à l'emploi et à l'activité économique d'une part et le redressement des finances publiques d'autre part. Quels seront concrètement vos moyens d'action pour mettre en œuvre cette politique économique?
Essentiellement les ressources que nous tirons de la réforme fiscale qui a été actée en juillet 2013 et qui nous permettent de recouvrer des recettes additionnelles qui vont avoisiner 9 milliards de francs pacifiques, qui sont essentiellement consacrées à la protection sociale généralisée, notamment au régime de solidarité pour les plus démunis. Au travers de cette réforme fiscale, nous avons commencé à reconstituer une partie de nos ressources qui nous permettent de financer plus que par le passé nos investissements publics. Je l'ai indiqué aussi lors de l'examen et du débat d'orientation budgétaire. Nous souhaitons faire passer nos investissements publics de 20 milliards à 25 milliards l'année prochaine. Je rappelle qu'il y a deux ans, le niveau de dépenses publiques avait atteint un minimum de l'ordre de 13 milliards. Ce qui veut dire qu'en l'espace d'un peu plus de deux années, nous aurons redressé considérablement ce niveau d'investissement public. Et c'est important parce que c'est ce qui permet aux entreprises d'avoir de l'activité, d'embaucher et de créer elles-mêmes de l'activité économique.
Justement, pour en parler, une pause fiscale a également été envisagée pour encourager, vous venez de le dire, l'initiative privée. Et dans le même temps, vous voulez également favoriser l'investissement public à hauteur de 30 milliards. Quel juste milieu allez-vous trouver entre investissement public et privé ?
Alors, l'investissement privé, nous avons déjà pris des mesures fiscales en juillet 2013, à savoir la baisse de l'impôt sur les sociétés de 5 points. Ça fait une baisse quand même non négligeable de 12 à 17% selon la tranche. Et deuxièmement, nous avons généralisé l'application d'une fiscalité préférentielle pour les très petites entreprises qui font un chiffre d'affaires de moins de 5 millions. Ça concerne beaucoup de petites entreprises donc qui paieront beaucoup moins d'impôts que par le passé. Donc ça, c'est une mesure, je pense, qui était essentielle. Et sur l'investissement public, comme je le disais aussi, le fait d'avoir acté cette réforme fiscale nous permet de retrouver une capacité d'autofinancement et de solliciter moins que par le passé les prêteurs extérieurs. Notre objectif est aussi de réduire notre dette et de faire en sorte que nous soyons un peu plus libres dans notre capacité à financer nos investissements. Je pense que c'est le bon équilibre. D'une part, augmenter la dépense publique pour permettre aux entreprises de retrouver de l'activité et de créer de l'emploi, et dans le même temps stimuler l'activité économique des entreprises, et notamment des petites qui sont en capacité d'embaucher.
On va revenir sur le volet de l'emploi. C'est est un axe important. Vous disiez dans votre discours en octobre dernier que les CAE, contrats d'accès à l'emploi, juste pour rappel, il y en a eu à peu près 2600 instaurés sur près de 10 000 demandes. Est-ce que ces CAE qui devraient basculer vers des CED, contrats d'emploi durable, est-ce que c'était finalement une mauvaise idée? Pourquoi ce changement?
C'était une très bonne idée dans ce contexte où l'activité économique était réellement en berne et les entreprises n'avaient plus la capacité de recruter. Nous avions beaucoup de jeunes, sans qualification notamment, qui se retrouvaient complètement exclus du monde du travail. Et donc cette mesure a permis à 3000 personnes, puisque nous allons atteindre le chiffre de 3000 en fin d'année, de retrouver une activité professionnelle et surtout de retrouver du pouvoir d'achat et une certaine dignité aussi au sein de leur famille. Mais nous avions indiqué aussi dès le départ que ces mesures étaient des mesures transitoires et que l'objectif était de faire en sorte que ces emplois aidés deviennent des emplois durables dans le futur. Alors l'essentiel des contrats d'accès à l'emploi ont été réalisés par des entreprises privées et l'objectif pour 2015, c'est de faire en sorte que dans un certain nombre de cas, si l'activité économique est avérée, ces entreprises utilisent un deuxième dispositif pour insérer de manière durable les jeunes dans les entreprises. C'est l'objectif qui a été affiché, mais nous savions que dans ce contexte difficile qui était le contexte économique de l'année dernière, c'était impossible d'inciter ou de pousser les entreprises à embaucher alors que l'activité n'était pas là.
Donc le CED a vocation à s'installer durablement
Le CED est une mesure qui vient compléter le CAE. Le CAE a permis à effectivement à 3000 personnes de retrouver pied sur le marché du travail, à un certain nombre de jeunes qui n'avaient aucune activité, aucune expérience professionnelle, de savoir comment fonctionne une entreprise et de pouvoir s'insérer plus facilement. Le CED va aider l'entreprise à insérer le jeune de manière durable. Ces mesures sont effectivement complémentaires.
D'accord. Vous vous êtes rendu à Paris au début du mois pour finaliser les dossiers après le déplacement du président Fritsch. Il vous fallait régler les derniers détails techniques et chiffrer les mesures. On sait que le président, il l'a dit hier à notre micro, il doit encore évoquer certains dossiers avec le président Hollande lors de son déplacement en Nouvelle-Calédonie. Il a d'ailleurs pris l'avion ce matin. Est-ce que les choses avancent bien à Paris?
Les choses avancent bien, non seulement à Paris, mais aussi ici en Polynésie, puisqu'un groupe de travail a été mis en place. Deux réunions se sont déjà tenues, une visioconférence a lieu la semaine prochaine pour finaliser effectivement un certain nombre de mesures techniques sur lesquelles nous discutons. Donc l'objectif est effectivement de faire en sorte que l'État participe à nouveau au financement du RST et nous devons définir les moyens les plus adaptés pour pérenniser justement ce soutien de l'État au régime qui concerne les plus démunis en Polynésie.
D'accord. Une question un peu plus personnelle maintenant. Vous êtes donc, depuis le retour du Tawera, vice-président. Vous avez été architecte du plan de relance présenté en avril dernier, auteur aussi de ce budget. Vous êtes plutôt issu du monde de l'entreprise. Vous n'étiez pas vraiment un homme d'appareil politique. Est-ce que c'est parfois un peu compliqué de faire entendre sa voix chez des politiques qui ont pu ou qui peuvent encore aujourd'hui peut-être avoir la folie des grandeurs en termes de budget?
Non, j'ai l'impression que dans les débats qui ont lieu à l'Assemblée, les débats justement sont très ouverts. Je vois des élus qui sont quand même conscients des difficultés et qui prennent les décisions qui s'imposent. C'est pour ça que, pour revenir à la question initiale, à savoir les mesures concernant la protection sociale généralisée, je pense que, compte tenu du contexte, les élus, parce qu'il y a beaucoup d'élus nouveaux à l'Assemblée, sont plutôt conscients de ces difficultés, ce qui fait que je suis assez optimiste pour me dire que ces décisions seront effectivement prises.
Vous avez parlé d'un budget humble, raisonnable et honnête, faire ce que l'on peut avec ce que l'on a. Est-ce que c'est ça finalement la patte Nouria Oulore?
Ben, il me semble.
Merci, on marque une courte pause et on vient juste après.